Donc, la présentation que je vais vous faire est en trois points. On va partir du futur, c'est-à-dire de vos métiers. Je vais essayer de vous décrire ce qui se passe classiquement pour les élèves GMM, quels sont les métiers qu'ils exercent. Ensuite, je parlerai de formation, et là aussi en reculant. Je commencerai par parler de ce que les élèves font en troisième année, pour que vous ayez une petite idée. Et enfin, j'arriverai à en quelque sorte, la formation qu'on vous propose l'année prochaine pour préparer tout ça. Et enfin, quelques idées de projets. J'irai assez vite là-dessus. Vous aurez l'occasion sans doute d'approfondir ça lors de la deuxième réunion qui sera pilotée par Frédéric Taillet. Alors, les présentations. Sandrine Calvary, juste en face de moi, est l'inspectrice des études du département. Frédéric Taïeb est le directeur du département et j'en suis le président. On va donc commencer par les métiers. J'extrais un texte d'un document qui présente l'école. Donc le département GMM forme de futurs ingénieurs-chercheurs ou ingénieurs-concepteurs. On va essayer de souligner les mots qui sont importants dans cette longue phrase. Ingénieurs-concepteurs. Je pense que vous devinez un peu ce que ça veut dire. Dans la vie courante, on utilise des produits, il faut les concevoir. Ces produits posent des problèmes de mécanique. Des bons ingénieurs en mécanique sont donc nécessaires. Parmi les produits, imaginez une centrale nucléaire, une voiture, un avion, etc. Mais on forme aussi, tiens, j'ai perdu un petit morceau, on forme aussi des ingénieurs chercheurs. Vous allez voir qu'on est probablement le département dans lequel il y a le plus de thèses et le plus de doctorants à la fin de la formation. Donc les mots importants, c'est ça. C'est ingénieur-chercheur, ingénieur-concepteur, mécanique, matériaux. Et j'ai souligné un dernier thème qui ne vous surprendra pas. Pour votre génération, la société exige que vous soyez responsable de la planète. Donc faire ce qu'on appelle une conception éco-responsable, ça oblige à apprendre un certain nombre de techniques pour mesurer ce qu'on prend à la planète pour faire quelque chose, et quelle cochonnerie on lui laisse. Donc, ce point-là est un point important qui se traite plutôt en fin de cursus. Pour ce qui est des métiers, le premier poste, c'est donc ingénieur-chercheur ou ingénieur-concepteur. Ça vous intéresse probablement de savoir ce que les camarades qui sont sortis dans les années 2003, 2004, 2005 deviennent ensuite. Ben, vous avez deux grandes tendances schématiquement. Il y a ceux qui deviennent chefs de grands projets, voire responsables de programmes dans l'industrie, et plus le temps passe, plus la taille des projets et des responsabilités augmente. Et il y a ceux qui ont choisi un autre type de carrière, qui deviennent plutôt des experts. Dans la société actuelle, les ingénieurs experts sont autant respectés et réputés que les grands chefs de projet. Il faut le savoir. À une époque, il y a 15 ans, ils étaient moins payés. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient peut-être moins de responsabilités humaines ou moins de responsabilités financières. De nos jours, compte tenu du fait que, d'un point de vue technique, la société évolue très très vite, les ingénieurs experts sont très reconnus et ont du pouvoir dans l'entreprise, en quelque sorte, et de l'argent. Je fais une petite statistique pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Des débouchés des promos 2010 à 2015, j'ai regroupé un paquet de 5 années, ça fait à peu près 170 diplômés sortis du département GMM. On va commencer par regarder les secteurs industriels, parce que c'est finalement le premier élément qui doit vous indiquer si vous êtes fait pour ce département ou pas. En termes de secteurs industriels, vous voyez qu'un gros tiers des GMM pendant ces 5 années-là sont allés dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie dans nos sociétés est un secteur en plein bouleversement. Il y a plein de mots à la mode comme transition énergétique, etc. Mais c'est un peu plus qu'une mode. Il y a vraiment quelque chose au fond qui est important. Parce que la production d'énergie est quelque chose qui est extrêmement polluant et vous savez que la pollution de notre planète commence à être à un niveau, disons, inquiétant pour beaucoup de populations. Pas encore pour les populations de France, mais il y a beaucoup de populations dans le monde, il y a des îles qui ont été vidées et il y a plein d'autres problèmes. Ensuite, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a beaucoup de nos camarades qui travaillent dans le domaine des matériaux, c'est-à-dire ArcelorMittal pour les aciers, Saint-Gobain, Lafarge, ces sujets-là. Un paquet pas négligeable dans le domaine de l'aéronautique. Alors, il faut être bien clair. Dans le domaine de l'aéronautique, la grande majorité des GMM travaillent sur les moteurs. C'est la partie la plus compliquée d'un avion, les moteurs. Il y a beaucoup de problèmes de mécanique des fluides. Je vais rentrer dans le détail des moteurs parce que c'est vraiment un bon exemple de ce que doit savoir un ingénieur GMM. Donc, je rentrerai dans le détail un petit peu tout à l'heure. Il y a quelques ingénieurs qui travaillent sur les structures, en particulier chez Dassault. Très peu de GMM chez Airbus. Airbus, en fait, embauche surtout des ingénieurs de ses sous-traitants expérimentés. Donc j'imagine que dans quelques années, il y aura des GMM chez Airbus, mais pour l'instant, il y en a relativement peu, alors qu'il commence à y en avoir de manière régulière chez Dassault, par exemple. Dans le domaine des transports terrestres, c'est un domaine qui a l'air petit ici, mais qui est en forte évolution. Vous savez que les constructeurs automobiles qui étaient dans une situation catastrophique il y a 3-4 ans sont maintenant en plein boom. Le chiffre d'affaires est énorme et les bénéfices aussi sont énormes. PSA est en train de racheter Opel. Le bénéfice de cette année est monstrueux. Donc, en fait, ils ont purgé terriblement leur personnel et ils sont en train de réembaucher. Donc, vraisemblablement, celui qui fera cette présentation dans 4-5 ans aura ce morceau-là, transport terrestre, sérieusement augmenté à cause du secteur automobile, mais aussi à cause du secteur ferroviaire. Il y a beaucoup de choses à réinventer dans le domaine du ferroviaire, en particulier dans le domaine du ferroviaire pour les banlieues. Il y a quelque chose qui vous surprend peut-être si vous arrivez à le lire, ce pôle-là, c'est génie civil. Vous avez un certain nombre de camarades qui souhaitent travailler dans le domaine du génie civil, mais qui veulent être de bons mécaniciens et pas des généralistes du génie civil. C'est le cas en particulier de ceux d'entre nos camarades qui veulent travailler par exemple chez Fraissinet ou chez Nuvia. Ce sont des problèmes de mécanique en quelque sorte de détail, bien plus complexes d'un point de vue mécanique que de concevoir un bâtiment classique ou un pont classique. Donc on a un certain nombre de camarades qui sont dans ce secteur-là. Vous voyez un petit pôle service public, en fait c'est essentiellement les ingénieurs élèves, mais la plupart d'entre eux en fait travaillent pour l'énergie, hein. Les fonctionnaires qui viennent de l'IX ou des écoles normales supérieures pour être fonctionnaires et ingénieurs des ponts travaillent dans la direction de l'énergie ou à la SN ou à des choses comme ça. Il y a bien sûr d'autres débouchés, des choses même quelquefois un peu étranges. Et ce que vous voyez apparaître qui est de moins en moins négligeable avec le temps qui passe, c'est les start-up. Les ingénieurs GMM ont entre les mains des outils qui leur permettent de concevoir des produits. Donc, éventuellement, des produits innovants, voire révolutionnaires. Et ils peuvent apporter quelque chose à la société. Et pour ceux qui ont cette fibre-là, ils ont entre les mains de quoi monter des start-up. Vous croisez peut-être de temps en temps des jeunes start-upers dans l'école. Beaucoup d'entre eux sont des GMM. Quand vous entendez parler de récupération de la lumière du soleil pour aller éclairer les hangars ou les choses de ce genre-là, c'est un ancien GMM. Quand vous entendez parler d'une base pour les drones de manière à avoir un positionnement final extrêmement précis, c'est aussi des GMM. Je crois que cette année, il y a encore des GMM qui sont étudiants entrepreneurs. Donc si vous avez cette fibre-là, il faut absolument nous en parler de manière à ce qu'on organise une scolarité spéciale pour vous qui vous permette non seulement d'apprendre la mécanique et la conception comme vous en avez besoin et comme vos camarades, mais qui vous laisse aussi la possibilité d'apprendre d'autres aspects qui vous permettent de faire un business plan, etc. etc. Donc, et puis, de même, il faut qu'on puisse vous mettre en interface avec ces jeunes-là, de manière à ce que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est la vie d'un jeune qui monte une start-up. Je vous propose maintenant de revoir les métiers, mais sous un autre filtre, sous le filtre type d'activité et pas entreprise. Le type d'activité, c'est ça. Donc, vous voyez, pas tout à fait une moitié d'ingénierie et de conception, pas tout à fait une moitié de recherche et développement. Des activités complémentaires, dont du management de projet. Il y a des camarades qui, en sortant de l'école, sont tout de suite chefs de projet. On a même quelques exceptions. Chez PSA, on a eu un camarade qui est devenu chef de projet alors qu'il était en année de césure. Bon, il a piloté 5 ingénieurs. C'était très flatteur pour nous. Ça m'a quand même un peu surpris, pour être très franc. Mais il a fait du très bon boulot. Quelques-uns vont en production. Ceux qui vont en production, c'est assez clair, ce sont des camarades qui se sont trompés de département. Ils auraient dû aller en GI, mais c'est vrai qu'à votre âge, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut faire. Ils sont venus en GMM parce qu'ils se sont dit « la science, elle est quand même plus dure dans ce département ». Ils ont sans doute raison. Mais leur sensibilité, c'était quand même de s'intéresser à la production, aux usines, à l'organisation. D'accord ? Donc si vous hésitez, si vous savez que vous voulez aller dans l'industrie, mais que vous hésitez entre ces types de métiers, échangez avec nous, échangez avec Frédéric, échangez avec Aurélie, et changer de manière intense, de manière à éviter de vous tromper de département. Ce n'est pas un drame de se tromper de département. Quand un élève s'en rend compte, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il se réoriente, bien sûr. Mais ça coûte un peu de temps. Très classiquement, celui qui, au bout de quelques mois, s'est rendu compte qu'il s'est trompé de département, il change de département, mais sa scolarité est allongée. D'accord ? Donc, il n'y a pas de drame, mais c'est quand même un peu dommage de perdre un peu de temps. Donc là, je crois que ça vous dit assez bien l'état d'esprit dans lequel on fait cette formation, puisqu'on les fait pour les métiers que vous venez de voir. Au passage, sur 5 ans, quand on pose des questions à nos anciens, il y a 92% de réponses. Ça vous donne une autre caractéristique de ce département, c'est un sentiment d'appartenance extrêmement fort. Les anciens sont très heureux d'être DGMM, revendiquent d'être DGMM, et ça veut dire que quand vous avez besoin d'un coup de main, ils sont là, ils sont présents pour vous aider. Alors c'est probablement vrai pour la plupart des départements, hein, ce que je dis. Mais nous, on le mesure, Frédéric et moi et Sandrine, c'est extrêmement clair en termes de réponse quand on a besoin de faire des statistiques ou de leur demander un coup de main parce qu'un camarade se retrouve en difficulté. Donc cette solidarité qui va au-delà de la solidarité entre Civil Pont, qui est organisée par Pont Alliance, est une des forces dans ce département. Un petit complément sur l'activité des anciens. Dans ceux qui sont en recherche et développement, il y a une moyenne sur les années 2010 à 2015 de 30% de doctorants. Parce que pour les métiers, pour devenir expert, avoir un diplôme de doctorat dans des entreprises internationales est en train de devenir une nécessité. Je pense que vous êtes tous très attentifs à ce qui se dit dans la presse, etc. Et vous savez qu'en France, le diplôme d'ingénieur sorti d'une grande bonne école est très prestigieux. Mais dès que vous passez une frontière, ça ne se voit plus. Quand vous êtes en Allemagne, si vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas grand-chose. D'accord ? Donc ceux qui travaillent dans des boîtes comme Airbus, dans des boîtes constructeurs automobiles allemands, dans des boîtes qui ont besoin d'avoir une activité à l'international et qui ont besoin de prouver de l'expertise, ces boîtes-là embauchent des docteurs. C'est le cas de Lafarge, c'est le cas de Saint-Gobain, par exemple. D'accord ? Donc pensez-y, ça dépend de votre projet de carrière. Par ailleurs, un poste de doctorant, c'est déjà une activité professionnelle. Ce n'est pas juste une activité d'étudiant. D'accord ? Et la tendance à l'augmentation est assez forte, puisque sur les dernières promos, on est passé de 30 à 40% de doctorants. En général, des thèses dont les sujets sont tout à fait passionnants. Et ben, c'est aussi une manière d'avoir un petit peu de jubilation à la fin de sa scolarité, de faire une thèse. Alors, vous êtes sûrement intéressé, parce que là j'ai parlé de secteur, par quelques noms d'entreprises, puisque vous les connaissez bien. Hein. En fait, on a des débouchés équilibrés dans les principaux secteurs industriels européens, majoritairement des grosses boîtes, mais de plus en plus des start-up. Enfin, les principaux employeurs, ça reste des grosses boîtes, hein, comme Areva, dans le domaine de l'énergie, ArcelorMittal. Vous savez probablement, parce que c'est écrit partout, que les aciers qu'on utilise de nos jours n'ont strictement rien à voir avec les aciers qu'on utilisait il y a ne serait-ce que 10 ans. Actuellement, les aciers ont des limites d'élasticité tellement élevées, on atteint 2000 mégapascal de limite d'élasticité pour les aciers, qu'on n'arrive plus à les laminer à froid. Donc on chauffe les bobines pour pouvoir les laminer. On enroule à chaud, ça crée tout un tas de désordres. Donc les boîtes comme ArcelorMittal, qui sont de gros fournisseurs de ces tôles d'acier, mais les Japonais, etc., réembauchent relativement de manière assez lourde des gens de très grande qualité dans le domaine de la mécanique pour arriver à modéliser des process qui ont totalement changé depuis qu'on enroule en quelque sorte leur bande d'acier à chaud. Quand ça refroidit, il y a des changements de phase, des changements de géométrie, des contraintes internes très importantes. EDF, vous connaissez bien, vous savez que EDF, c'est du nucléaire neuf, c'est beaucoup de nucléaire ancien. La France a sans doute intérêt, pour des raisons ne serait-ce qu'économiques, à prolonger des réacteurs qui ont été conçus initialement pour 40 ans, beaucoup de nos réacteurs en 30 ans. Quand vous serez en pleine activité, la société devra choisir. Est-ce qu'on prolonge à 50 ou 60 ans, comme ont fait les Américains, nos réacteurs pour éviter de gaspiller un capital qui est sur place, ou est-ce qu'on les ferme ? C'est un choix vraiment très difficile. C'est un choix qui doit être éclairé, c'est un choix de nature politique, qui doit être éclairé par une bonne culture dans le domaine de la mécanique pour savoir quels sont les risques d'une structure qui a commencé à vieillir. Par ailleurs, EDF construit du nucléaire neuf, mais EDF, c'est aussi EDF énergie renouvelable. EDF travaille sur des éoliennes, travaille sur des hydroliennes. Juste un exemple de souci. Quand on pense schématiquement qu'on va mettre des éoliennes en mer parce que le vent est un vent beaucoup plus régulier. C'est exact. Mais il y a une chose qu'on ne sait absolument pas faire actuellement, c'est de savoir quel est le coût de possession d'une éolienne en mer. Quand vous posez une éolienne en mer, on ne sait pas dire ce que va devenir la structure, quel va être le coût de maintenance, quel va être le coût de possession, finalement. C'est un concept que vous verrez dans vos cours d'économie. Et ça, c'est des ingénieurs spécialistes de mécanique et de matériaux qui arriveront à déterminer ce coût. On ne va pas construire des milliers d'éoliennes en mer dans des zones ventées, donc difficiles, sans savoir à peu près le capital investi qui est énorme, en combien de temps il va pouvoir être amorti. PSA, j'en ai parlé. Le grand challenge pour les constructeurs automobiles, c'est de concevoir maintenant des véhicules autonomes, c'est-à-dire des véhicules qui n'auront plus besoin de chauffeurs. Ça a l'air élémentaire, il suffit de mettre des capteurs, d'avoir des logiciels pour interpréter, mais c'est très 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 loin d'être facile. Quand on discute avec les ingénieurs de PSA, ils nous disent les premières voitures en nombre significatif sur nos autoroutes et sur des autoroutes pratiquement dédiées, c'est dans 5 ans. Dans 10 ans, la France sera inondée de véhicules autonomes, avec une perspective et un espoir qui est de diminuer très sensiblement le nombre d'accidents. Ce n'est pas facile de le prouver. Quand on a visité avec vos camarades de la promo d'avant Mercedes en Allemagne, il y a des problèmes de déontologie qui se posent dans les algorithmes qui sont utilisés dans ces voitures. Ces voitures ont dans leurs ordinateurs des modèles du véhicule, des modèles de ce qu'ils voient, et donc modélisent en quelque sorte la trajectoire. Et on nous posait la question suivante: que feriez-vous si vous êtes dans une voiture, un gamin arrive parce qu'il suit derrière, il suit son ballon qui est en train de rouler, on peut l'éviter à condition de faire un écart, mais en face, il y a un vieux bonhomme qui arrive sur son vélo. Vous, comme chauffeur, vous faites quoi? Personne ne le sait, c'est complètement par réflexe qu'on réagit. Un ordinateur à l'intérieur d'une voiture doit décider. Et c'est un problème éthique majeur. Ceux qui ont pris en charge ces problèmes éthiques en France, c'est ce qu'on appelle l'Académie des technologies, qui est un cousin germain ou un frère, comme vous voulez, de l'Académie des sciences. Et on étudie très sérieusement ces problèmes de déontologie dans l'algorithmique quand l'incident conduit au décès d'un de nos concitoyens. Il faut alimenter ces philosophes qui réfléchissent là-dessus avec des modèles qui soient des modèles de très grande qualité. Les erreurs ne sont pas autorisées. Saint-Gobain, vous savez ce que c'est, hein, Saint-Gobain. En particulier, c'est avant tout les matériaux pour la construction avec une petite activité de matériaux pour l'emballage. Mais regardez avec émotion, si vous voulez mon avis, une bouteille, une canette de Coca-Cola. La canette de Coca-Cola, ce bout d'aluminium que vous avez entre les mains, c'est un objet de très très haute technologie. Les déformations que vous avez dans la tôle, c'est plusieurs centaines de pourcents, 600%. Ce que vous voyez en ce moment en mécanique avec Luc Dormieux, c'est des déformations qui restent inférieures à 2%. D'accord ? Vous voyez que la mécanique, quand vous travaillez à 600%, ne peut pas être aussi simple. Enfin, j'espère que vous la trouvez simple, que celle de Luc Dormieux. Quels sont ceux qui la trouvent compliquée ? Ah oui, quand même, c'est bien d'être honnête, en tout cas. Eh bien, vous verrez plus compliqué si vous venez chez moi, mais on essaiera de vous faire ça en douceur. La SNECMA a vécu très très longtemps avec un moteur que je vais vous présenter qui s'appelle le CFM56 et ils sont en train de passer à un moteur qui s'appelle le LIP. Ce que vous verrez dans les moteurs d'avion, c'est essentiellement une augmentation du nombre de matériaux et de matériaux spécifiques parce qu'un moteur d'avion est efficace à condition d'être très chaud et de tourner très vite. Ça met les pièces dans des tortures considérables. Donc c'est pas étonnant que ces entreprises, lorsqu'elles ont besoin de bons mécaniciens, s'adresse en France à l'endroit où on produit les meilleurs, c'est-à-dire à l'école des ponts, et plus spécialement pour ces métiers-là, dans le département GM. Mais il y a des camarades qui montent leur boîte, il y a des camarades qui vont dans des petites structures. Actuellement, on doit avoir un camarade chez Explicit, qui est une start-up qui a été créée par un gars de l'école des ponts, mais qui venait du département SEGF. Et cette boîte a été créée pour inventer de nouveaux sièges d'avion beaucoup plus légers que les précédents. Ils ont réussi, c'était vraiment une prouesse technologique, à faire un siège d'avion à 6 kilos. Et donc, dans le personnel de cette boîte, qui est maintenant plus une start-up d'ailleurs, qui s'est développée très vite, il y a eu des GMM pour faire ce genre d'études et pour développer leur marché. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu des métiers. J'espère que c'est un peu plus clair le type d'activité auquel on prépare. Quelle formation on va vous proposer pour arriver à pratiquer dans de bonnes conditions, à la fois de confort, de prestige et avec beaucoup de responsabilité, ce genre de métier. N'oubliez pas que la responsabilité d'un ingénieur concepteur est considérable. L'ingénieur concepteur qui se trompe, comment vais-je présenter ça? Je vais dire un médecin qui se trompe, dans le pire des cas, il tue un homme. Un ingénieur concepteur qui se trompe, il peut en ramasser 200 si c'est un avion, quelques milliers si c'est une centrale nucléaire. D'accord? La responsabilité est monstrueuse, hein, il faut en avoir bien conscience. Si vous le souhaitez, on pourra vous présenter tout un tas de cas d'accidents et vous montrer comment des gens irresponsables, comme par exemple le pilote de la centrale nucléaire de Tchernobyl, peuvent arriver à mettre en péril toute une frange de population et détruire un territoire sur des kilomètres carrés pendant un siècle. D'accord ? Donc il faut bien réfléchir à cette responsabilité-là. Ne pas vous laisser convaincre par des managers qui viendraient par-dessus vous en disant « Oubliez que vous êtes ingénieur, pensez que vous êtes manager. » Vous êtes avant tout ingénieur. Et en tant que tel, vous avez appris de la science, vous la mettez en œuvre au service des concitoyens et de votre entreprise. C'est votre priorité. Même si vous ne faites pas faire des affaires mirobolantes à votre entreprise parce qu'il y a un problème de risque et que vous ne voulez pas le faire courir à vos concitoyens ou à vos personnels. D'accord ? Gardez bien ça en tête, c'est très très important. La formation, je dirais, à l'éthique du métier est une des composantes importantes dans cette discipline-là. Il y a d'autres départements dans lesquels c'est important aussi, d'autres départements dans lesquels ça l'est un petit peu moins. Donc je vais parler des formations et comme on vient des métiers, on déroule le temps à l'envers. Donc je vais commencer par parler de ce qui se passe dans votre dernière année de scolarité. C'est-à-dire, en général, pour la plupart d'entre vous, après l'année de césure. Donc, quelques statistiques. Sur la période 2010-2016, il y a à peu près un gros tiers des camarades qui sont partis à l'étranger et à peu près deux tiers qui sont restés en France. C'est bon à savoir parce qu'il y a peut-être une légende qui dit que la plupart des GMM partent à l'étranger. C'est pas vrai. D'accord ? Deux tiers en France, c'est pas mal. Alors, où est-ce que j'en suis ? Je ne sais pas. L'étranger, quel étranger ? Il y a beaucoup d'étrangers, comme vous le savez. Voilà le camembert qui vous décrit les principaux pays. Vous voyez que la Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus que les USA. Les camarades qui vont en Grande-Bretagne ou aux USA, c'est en général pour les mêmes raisons, pour finir de perfectionner leur anglais. Ils vont dans d'excellentes institutions qui forment pas trop mal. Mais en général, guère mieux qu'en France. Et en tout cas, certainement, guère mieux que GMM 3e année. Simplement, il n'y a aucune chance que GMM en 3e année vous apporte l'expérience de l'international. Une expérience d'une année d'études à l'étranger, c'est une expérience qui a une très très grande valeur. Donc, ne vous attendez pas, dans ces différents pays, à trouver une formation de meilleure qualité que celle que vous allez recevoir. Ça n'est pas vrai, et on en a de nombreux exemples et de nombreux témoignages. Par contre, ne soyez pas frustrés si vous avez en face de vous un professeur qui maîtrise peut-être moins les concepts les plus fondamentaux et qui est un professeur plus appliqué. D'abord parce qu'il va vous apprendre ce que c'est que la démarche très appliquée pour un ingénieur et deuxièmement parce que vous allez passer une année avec des camarades étrangers à essayer de comprendre comment eux fonctionnent dans leur tête. Pour vos métiers futurs, ça a une valeur considérable. C'est une immersion qui a une très grande valeur. D'accord ? Donc là, je crois que vous avez tous entendu parler de la réforme de ces derniers mois qui touche la troisième année. Vous pouvez partir à l'étranger pour aller y faire 6 mois ou 1 an. Si vous décidez de partir à l'étranger pour faire un diplôme, vous avez une prolongation de scolarité qui a été exigée par la CTI. Je pense que vous êtes au courant. Ayez bien ça en tête. Ça n'empêche que malgré cette prolongation de scolarité, avant de décider de faire une troisième année en France, réfléchissez bien, réfléchissez à vos intérêts. Donc beaucoup de camarades vont en Grande-Bretagne. Il y a une très forte tendance qui est en train de se dessiner. C'est ceux qui vont en Grande-Bretagne à Imperial College pour faire de la biomécanique. Il va y avoir, dans les prochaines années, c'est une certitude, beaucoup de métiers d'ingénieurs en interface avec la médecine. Pour concevoir des matériels, concevoir des prothèses, etc., même simplement comprendre comment fonctionne un être humain. Les Anglais sont plus rapides que nous et ont déjà mis en place des formations qui semblent, d'après les premiers retours qu'on a eu des camarades, d'excellente qualité. Vous allez avoir Benjamin Ruel, qui est actuellement en deuxième année à l'école des ponts, vous connaissez sûrement, hein, c'est un grand gaillard. Ben, il est là-bas. Ah oui. Donc il vous en parlera peut-être un peu. Il fait un stage court et il va directement se former en bioméca. C'est, à mon avis, un choix tout à fait intelligent. Beaucoup d'élèves en Suède, on a des relations extrêmement étroites avec KTH. Vous avez le choix pour aller en Suède. Soit vous y allez au titre de la troisième année de l'école des ponts, soit vous y allez pour avoir un diplôme de KTH en plus. Diplôme en plus, scolarité prolongée. Et c'est un peu compliqué, parce que pour avoir le diplôme de KTH, il faut parler suédois. Donc les cours sont en anglais, vous finissez votre scolarité technique et scientifique en anglais, et ensuite, vous passez un certain nombre de mois dense à n'apprendre que le suédois. Mais ça présente peut-être, pour un certain nombre d'applications, un intérêt d'avoir un double diplôme. Bien sûr, en Allemagne, vous vous doutez bien que, par exemple, à la Technische Université de Munich, au Brésil, ben vous connaissez les camarades qui viennent du Brésil en deuxième année, hein, très sympathiques, moins bons que vous en maths, mais de sacrés ingénieurs quand même. Hein. La formation là-bas, elle est sûrement moins théorique, mais du point de vue de la conception, c'est vraiment du très bon boulot. Et en particulier dans l'une des start-up GMM qui est hébergée à l'école, vous avez deux anciens GMM qui sont allés faire leur troisième année au Brésil. Et ils ont appris beaucoup de choses que nous, on ne saurait pas leur apprendre. Au Canada, bien sûr, c'est une forme de... Ouais, c'est une forme d'étranger confortable. Hein. Quand vous allez à Montréal, je pense que vous ne mourrez pas si vous parlez en français, quoi. Donc, bon, ben voilà, mais c'est très bien aussi. Hein. Et de plus en plus, des camarades qui vont au Japon, qui prennent le risque d'aller au Japon. C'est compliqué, le Japon. Demain matin, on a un échange vidéo avec des professeurs japonais, justement, pour organiser encore davantage les échanges, en particulier entre l'université de Tokyo, qui est une université excellente, et l'école des ponts. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une 3A à l'étranger, le point focal dans notre département, c'est Frédéric qui connaît tout, et je vous encourage très tôt à échanger avec lui, hein, c'est important. Bien, l'étranger, ça représente un tiers. Les deux autres tiers, c'est la France. La France, c'est pas seulement l'école des ponts. Deux tiers à l'école des ponts, mais un tiers à l'extérieur. Ce que vous voyez là, en dehors d'un certain nombre de MBA, je dirais, cachés là-dedans, c'est essentiellement des masters de type recherche, beaucoup dans les universités, dans les écoles, excusez-moi, de Paris Tech. Et un petit peu dans cette université avec laquelle l'école des ponts a beaucoup de relations historiques très anciennes, l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, si vous connaissez le vieux nom. Il y a quelque part derrière un camarade qui pourra vous parler de Paris 6 et de son excellence en mécanique, si vous le souhaitez. Bien, à l'école des ponts, bah, là encore, tout le monde ne fait pas la même chose. À l'école des ponts, les 3A GMM qui restent à l'école des ponts peuvent faire soit une formation d'ingénieur. On va diversifier ces formations d'ingénieurs, en particulier, on va vous proposer une formation d'ingénieur beaucoup plus centrée sur l'énergie et une autre beaucoup plus centrée sur l'ingénierie des incertitudes. J'en dis deux mots. Ça démarre l'année prochaine, donc pour vous, si vous faites une année de césure, c'est dans 3 ans. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, quand on conçoit une structure, on exige de vous qu'elle ne casse pas. Et tous les ingénieurs, depuis la nuit des temps, disent « je fais des essais, j'ai des critères ». Je vérifie que ma structure ne viole aucun de ces critères et j'en conclus qu'elle ne casse pas. Quelle est la pratique? Regardez un peu Fukushima. Qu'est-ce qui était bizarre dans Fukushima? Ce qui a été bizarre, et pourtant ce n'était pas complètement absurde, c'était de se payer en même temps un tremblement de terre et un raz-de-marée. Vous m'accorderez que ça arrive de temps en temps que les deux arrivent en même temps. Hein, d'accord? Eh bien, ça n'a pas été suffisamment bien prévu. On est remonté dans le temps, assez loin, en disant, voilà, on a regardé des tas de séismes, c'est un pays où il y en a beaucoup, et le séisme dimensionnant, ça a l'air d'être celui-là. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ça? C'est complètement aléatoire, ça. D'accord? Prenez un problème de fatigue. Vous avez une pièce, par exemple, une pompe dans une centrale nucléaire, une cuve dans une centrale nucléaire. Vous dites, vous faites des essais, vous dites, dans telles conditions, la cuve ne cassera pas. Vous avez un choc froid violent parce qu'un tuyau a cassé, vous êtes obligé de refroidir très vite, etc. Et vous dites, la cuve ne va pas casser. Qui peut, sincèrement, affirmer qu'il est certain que ça ne cassera pas? Vous voyez bien que la plupart des problèmes sérieux, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a besoin des ingénieurs formés à l'école des ponts, des ingénieurs de très haut niveau, pour ces problèmes sérieux, la réponse déterministe est une simplification de la réalité. Vous apprendrez au fur et à mesure de votre scolarité dans ce département, si vous y venez, que bien évidemment, un ingénieur, c'est un homme d'action. Donc pour agir, il faut avoir des modèles qui permettent d'agir, donc des critères pour dire « Ok, là j'ai suffisamment confiance, on y va ». Mais si on veut aller plus loin sur les sujets les plus dangereux, il faut être capable d'appliquer une approche véritablement probabiliste sur des modélisations de mécanique. À l'école des ponts, on a de la chance. On a un excellent département de maths dans lequel les probas sont maîtrisés à un très très haut niveau. C'est le département, le labo de maths de l'école est un labo dans lequel il y a énormément de personnes prestigieuses internationalement. Et c'est aussi une école dans laquelle le labo de mécanique et le département de mécanique fait la mécanique à un très très haut niveau scientifique. Donc l'idée, c'est de rapprocher ces deux cultures pour arriver à inventer et à développer quelque chose qui existe déjà, mais qui est encore un peu marginal. Ça existe par exemple à Zurich, mais le professeur qui enseigne ceci à Zurich, c'est un ancien chercheur de l'école des ponts, qui a été professeur dans le département génie mécanique et matériaux. Voilà, juste pour faire un petit cocorico. Donc il faut apprendre à gérer les structures sous un angle probabiliste. La probabilité vient des incertitudes sur le chargement, des incertitudes sur le matériau et des incertitudes sur la géométrie. On n'est jamais certain de la géométrie quand on dessine. Vous allez apprendre à dessiner, vous allez devenir très fort en dessin avec Katia, vous allez dessiner une pièce et on vous en fera réaliser. Et je vous demanderai un petit exercice, c'est mesurer votre pièce par rapport au dessin. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des fois où ce n'est pas grave, des fois où ça l'est. D'accord ? Donc, on va vous proposer des formations qui sont de vraies formations d'ingénieurs, mais à un niveau d'expertise très pointu. Et par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par des carrières de chercheurs, on vous propose ces trois éléments ici, qui sont en fait des masters recherche, des masters qui préparent véritablement proprement à la thèse. Sciences des matériaux pour la construction durable, c'est des masters qui sont suffisamment intéressants pour que des industriels aient monté des chaires à l'école pour financer ces masters-là. Sciences des matériaux pour la construction durable et analyse multi-échelle des matériaux et des structures sont tous les deux sponsorisés par Lafarge et Saint-Gobain. Durabilité des matériaux et des structures pour l'énergie, c'est un master qui est très orienté vers la durabilité des structures, comme le titre le dit, mais pas seulement les vieilles centrales nucléaires qu'il faut prolonger 20 ans. C'est aussi les vieux barrages. On a des barrages en France qui ont 100 ans. C'est aussi les éoliennes qu'on va poser en mer. On va dépenser beaucoup d'argent. Il vaudrait mieux qu'au bout de 15 ans, elles ne soient pas cassées. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Et là, bien sûr, c'est EDF qui apporte ses sous pour nous permettre de fonctionner. Ces trois masters sont des masters de mécanique dans lesquels beaucoup de GMM continuent en thèse. Vous voyez ici apparaître une petite singularité. Ce master-là, c'est un master de MATAP. On a des camarades, et probablement qu'il y en a encore dans cette salle-là, qui hésitent beaucoup entre le département IMI et le département GMM. Et après avoir appris la mécanique chez nous, ils ont envie de se perfectionner en maths appliquées. Une des manières de le faire, qui à mon avis est efficace, si on en juge par les 3 ou 4 qui l'ont fait, c'est de venir en GMM en deuxième année et de faire ensuite le master de mathématiques appliquées. C'est faisable à condition d'accepter de donner un petit coup de collier. Vous êtes pris en main par des professeurs comme Éric Cancès qui vous donnent les lectures et qui vous coachent pour que vous puissiez rentrer dans ces masters de MATAP, qui sont des masters d'un niveau phénoménal, sans en mourir. Et nos camarades qui ont fait ça n'en sont pas morts. Il y en a un d'ailleurs que vous pouvez rencontrer éventuellement, c'est Frédéric Marazzato, qui a finalement été cohérent jusqu'au bout, puisqu'il fait actuellement une thèse qui est à cheval entre le CERMIX, le labo de MATAP de l'école, et Navier, qui est le labo de mécanique de l'école. Et vous avez quelques camarades qui s'intéressent au management et qui ont l'opportunité de pouvoir faire le MBA de l'école des ponts en dernière année. C'est parfaitement normal. C'est des gens qui ont entre les mains un métier de mécanicien et avec le prestige que donne cette compétence en mécanique, rajouter des compétences en business, ça en fait des gens qui sont, on va dire, bien payés et avec des métiers intéressants. Voilà. Donc, je vous ai parlé du M2 pour que vous voyez ça, mais c'est un peu loin pour vous pour l'instant. Donc, on va maintenant s'intéresser au M1, c'est-à-dire à ce que vous ferez l'année prochaine si vous décidez de venir chez nous. Alors, pour analyser les besoins de formation, je prends un exemple, un objet, le CFM56. Pourquoi le CFM56 est intéressant? Parce que, d'un point de vue des sciences mécaniques et des matériaux, c'est un objet d'une très grande complexité. Et c'est un objet qui existe depuis plus de 50 ans. Et qui a donc évolué régulièrement. D'accord? Ce moteur-là, il équipe tout un tas d'avions, des Boeing et des Airbus, et d'autres. C'est un moteur extrêmement performant, qui, à travers les âges, est resté performant parce qu'il évolue très, très régulièrement, conçu à moitié par la SNECMA, qui est une société dont le nom a changé. La SNECMA, maintenant, ça s'appelle Safran Aero Engine, je crois, ça veut dire les moteurs d'avion de Safran, et 50% le gros groupe américain General Electric. Une collaboration franco-américaine qui n'a jamais eu de problème. C'est étonnant, mais c'est à souligner, ça se produit de temps en temps. Donc, on va essayer d'analyser ce qu'il faut savoir pour être capable de travailler dans ce secteur-là. Et on commence par l'évolution de ces moteurs depuis les années 50. Je m'arrête en 2010 parce que le CFM56 arrive en bout de carrière quand même, il finit par atteindre le bout de sa carrière, et il va être remplacé par un nouveau moteur qui s'appelle le LIP, qui est un moteur encore plus révolutionnaire, si je puis dire, et avec des performances énergétiques phénoménales. Donc, ce transparent-là a été donné par un camarade qui travaille à la SNECMA, si vous m'autorisez ce terme ancien, et il est très illustratif. Dans les années 50, le moteur était fabriqué avec trois matériaux. En 2010, c'est-à-dire il n'y a pas bien longtemps, regardons la quantité phénoménale de matériaux qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne détaille pas la signification de ces matériaux-là, on verra ça quand on bossera ensemble pour ceux d'entre vous qui viennent. Il y a beaucoup de composites, il y a beaucoup de céramique, il y a bien sûr beaucoup d'alliages métalliques de très haut niveau. Donc il y a eu une évolution sur 20-30 ans considérable du point de vue des besoins de formation des jeunes ingénieurs. Un ingénieur, ça doit connaître vraiment avec une certaine profondeur tout un tas de matériaux. Vous avez l'école des mines qui forme des métallurgistes, c'est très bien. Les GMM ne seront pas des métallurgistes. Mais il faut absolument qu'on vous forme sur les métaux pour que vous puissiez discuter avec un métallurgiste. Vous avez des écoles où on forme des céramurgistes. C'est très bien. Mais il faut qu'un GMM qui fait de la mécanique et qui conçoit des structures et qui choisit des matériaux sache discuter avec des spécialistes de céramique. De même, il faut savoir discuter avec un spécialiste de composite ou un spécialiste de polymère. Et de plus en plus, pointe à l'horizon, et vous le voyez bien, parce que si vous êtes dans cette école, c'est que vous avez l'esprit ouvert, pointe à l'horizon le concept de nanomatériaux. Nanomatériaux, des propriétés phénoménales. Pourquoi phénoménales? Parce que la plupart des matériaux ont des propriétés liées au volume élémentaire à l'intérieur du volume. Quand vous faites des particules suffisamment petites, c'est les propriétés de surface qui commencent à prendre le dessus et qui pilotent le comportement de l'objet. Donc ça change tout. Ça change les propriétés de déformabilité, ça change les propriétés optiques, ça change les propriétés électriques, magnétiques, etc. C'est une vraie révolution qui se prépare. Avec, malheureusement pour l'humanité, des risques considérables qui sont là derrière. À l'échelle de ces particules, quand elles vous rentrent dans les poumons, elles rentrent à un endroit où elles n'en sortiront plus. Parce que vous qui connaissez déjà un petit peu de mécanique des fluides, j'ai vu en haut de l'amphi, on vous a appris les écoulements potentiels, donc maintenant vous êtes de très forts mécaniciens des fluides. Quand vous avez des tout petits trous, il n'y a plus d'agitation. Vous respirez, vous avez l'impression de rentrer de l'air et de le sortir, c'est vrai, mais ça concerne véritablement, du point de vue des écoulements, uniquement les trous relativement gros. Les plus petits trous, s'il y a quelque chose qui est tombé dedans, ça restera là. Ça a donné des problèmes pour les mineurs quand ils respiraient de la silice, des silicoses. Vous savez qu'il y a des asbestoses pour ceux qui ont respiré de l'amiante. Les nanoparticules, on le sait, ça va poser ces problèmes-là. Donc, là, contrairement à nos anciens qui ne savaient pas et qui ont découvert les drames humains colossaux et considérables que ça pouvait créer, vous n'avez pas le droit de faire comme si vous ignorez que c'est des produits dangereux. C'est des produits authentiquement dangereux. Mais le principe de précaution, il ne faut pas l'appliquer comme des crétins. Il est peut-être dans notre Constitution, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur amendement qu'on ait fait de cette Constitution, mais le principe de précaution, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'innovation. Il y a une manière d'être tranquille pour ne pas faire de bêtises, c'est de dire on arrête d'innover, quoi. On ne fait pas de nanoparticules, on ne fait rien. Mais ce n'est pas la bonne manière de se placer face à ces problématiques qui sont des problématiques sociétales essentielles. Donc, voilà, j'ai parlé des nanomatériaux. Dans votre vie, ça deviendra une composante importante et vous devrez savoir réfléchir, choisir et décider des modes de mise en œuvre de ces matériaux-là qui évitent de contaminer vos personnels et de faire prendre des risques à la population. Donc, premier élément le plus important pour les moteurs d'avion, très grande diversité de matériaux. Dans un moteur d'avion, je le reprends ici, vous avez bien sûr de la mécanique des fluides, vous faites rentrer de l'air, vous brûlez un peu de kérosène et vous recrachez de l'air. Donc il y a un cycle thermodynamique. Vous êtes déjà assez bon en thermodynamique. L'enseignement de thermodynamique en classe prépa s'est beaucoup amélioré. En plus, vous sortez du cours de physique statistique, je ne me trompe pas. Donc, vous avez une idée assez claire de ce que c'est la thermodynamique. Donc on prend de l'air, on chauffe l'air. Le qu'on crache derrière, c'est l'air qu'on a pris devant, simplement, avec un petit peu de vapeur d'eau parce qu'on a brûlé du kérosène. Donc ça, c'est un moteur, exactement comme les moteurs à 4 temps. Il y a un cycle thermodynamique qu'on est capable d'étudier. Mais ce qui est caractéristique du rendement, est vraiment fondamental pour le rendement de ces moteurs, c'est la température à laquelle vous faites chauffer, la température de la chambre de combustion. Plus c'est chaud, plus votre rendement est excellent. Simplement, vous vous doutez qu'il y a un blocage. C'est si vous allez trop loin en température pour avoir un meilleur rendement, vous esquintez vos matériaux. Il n'y a pas tant de matériaux qui acceptent des très hauts niveaux de contraintes parce que ce petit machin-là, il tourne quand même très très vite. Donc il y a des efforts là-dedans qui passent qui sont considérables. Vous faites des efforts considérables sur une pièce très très chaude et vous lui demandez de tenir une durée monstrueuse. Donc c'est un problème majeur. C'est la raison pour laquelle ça étonne toujours un peu les visiteurs étrangers de voir qu'à l'école des ponts, avec une école qui s'appelle l'école des ponts, on a finalement beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans les problèmes de motorisation. C'est parce qu'on a des ingénieurs qui sont très bons en mécanique, très bons en matériaux. Ils sont donc parfaitement adaptés pour travailler sur les moteurs d'avion. Donc, mécanique des fluides, bien sûr, comme je l'ai dit, mécanique des structures. Toutes les pièces, là, ici, les petites ailettes qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur, sont des morceaux de structure extrêmement torturés. Donc, il faut être très bon en mécanique des structures. Puis, bien évidemment, comme je vous l'ai présenté dans le transparent précédent, il faut, pour pouvoir travailler dans ce secteur, avoir un minimum de maîtrise sur la quasi-totalité des matériaux avec leur grande diversité. Ça ne veut pas dire qu'on fait de vous des spécialistes d'un matériau. Ça veut dire qu'on fait de vous des généralistes de tous les matériaux. Vous êtes capable de discuter avec tout le monde, vous connaissez leur vocabulaire, vous connaissez leurs préoccupations. Et je pense que vous savez qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'il suffit d'être bon en fluide, bon en structure, bon en matériaux pour faire un moteur d'avion? Il faut se préoccuper, comme je vous l'ai dit, des responsabilités que l'on a vis-à-vis de la société. Faire un moteur d'avion, il faut le faire pour qu'il soit bien sûr économe, mais il faut aussi qu'il ne soit pas polluant. Donc il y a un aspect très important pour les ingénieurs concepteurs qu'on prétend former, c'est de les former à une conception éco-orientée. C'est récent, quand on a lancé le département GMM, on en disait trois mots. Maintenant, c'est devenu essentiel. Ceux qui prétendent pouvoir concevoir des objets de nos jours sans cette préoccupation de savoir ce qu'on prend à la planète et ce qu'on crache comme cochonnerie sont des inconscients et on ne forme pas des inconscients dans cette école. Voilà, donc, vous avez compris, maintenant on va rentrer un peu dans les disciplines. Il vaut mieux aimer la mécanique pour venir chez GMM, ce n'est pas une surprise, j'imagine. Dans ce qu'on va vous apprendre, il y a, bien sûr, les cursus sont variés, il y a quand même pas mal d'électifs, mais si on fait une moyenne, il y a grosso modo 60% de mécanique à apprendre, qui est de la mécanique qui vient en aval, ce que vous apprend Luc, et qui va beaucoup plus loin. Luc vous fait de la mécanique en élasticité linéaire, en petite transformation. Nous, principalement, on va travailler en grande transformation. Les géométries changent considérablement. J'y reviendrai. Il y a autre chose, c'est que Luc fait de vous de meilleurs scientifiques. Nous, on va faire de vous des ingénieurs, des gens capables de gérer des projets, capables de comprendre ce qu'est un projet. Donc l'activité projet, l'activité conception, vous la retrouvez tout le temps. Il y a des tas de cours qui sont contrôlés par des projets à la fin. Il y a carrément des activités de projet, une semaine à temps plein, on en sort là, semaine conception, on démarre on entend parler d'une raquette, on sort, et ben on a dessiné la raquette, on a calculé la raquette, on a fabriqué la raquette, et on a testé la raquette pour vérifier que la raquette qu'on a produite a à peu près les propriétés qu'on voulait lui donner au départ. Donc des activités de ce type-là, il y en a beaucoup dans ce département. Enfin, bien sûr, comme vous le savez, l'école des ponts veut faire des chefs. C'est comme ça, c'est tout à fait honorable. Et donc, il faut un minimum de formation au management. Moi, quand je suis passé dans cette école, pas de doute, l'école des ponts formait encore des chefs, mais la société était extrêmement tolérante. On ne nous formait pas au management, on arrivait, on avait des budgets à gérer, des hommes à gérer, on était jeunes, donc on faisait des bêtises. Tout le monde disait, ils sont jeunes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il faut que vous arriviez avec un minimum de bagages pour ne pas vous laisser complètement déborder sur des aspects de management. Mais très honnêtement, 15%, ça suffit, parce que c'est juste la première marche qu'il faut vous donner. Vous êtes tous très agiles intellectuellement, et le reste, ben, vous l'apprendrez tout seul. La partie éco-conception, si vous voulez bien, je la mets dans, est très importante, donc je la souligne à nouveau, mais je la mets dans la partie projet et conception. La mécanique, eh ben, vous le savez, vous êtes en train de pratiquer de la mécanique des fluides après avoir fait de la mécanique des solides. Donc il y a des fluides. Les solides, ben, il y a deux sortes de solides. Il y a ce qu'on appelle les structures, c'est-à-dire les objets que l'on veut calculer. Puis à une échelle plus petite, il y a les matériaux qui constituent ces structures. Donc la mécanique, vous allez la trouver déclinée sous forme de mécanique des fluides, compressible ou incompressible, aérodynamique, etc. Mécanique des structures, poutres, coques, mais beaucoup de calculs en tridimensionnel, et toutes sortes de matériaux. J'ai insisté sur ce point-là, je réinsiste. Votre singularité en termes de formation d'ingénieur en mécanique, en génie mécanique, c'est qu'on vous apprend à formuler les problèmes en grande transformation. Il y a un petit peu un drame avec les codes de calcul qui sont produits actuellement et diffusés, c'est qu'ils sont relativement faciles d'emploi, les codes de calcul dans l'industrie. Donc un ingénieur pas très consciencieux qui utilise Abacus a l'impression qu'il sait faire un calcul en grande transformation. Mais en fait, il ne maîtrise aucun des concepts. Les concepts en grande transformation sont des concepts beaucoup plus sophistiqués, en particulier quand on fait de l'élastoplasticité, c'est des concepts sensiblement plus sophistiqués que ce que vous êtes en train de voir dans une mécanique linéarisée. Alors, utiliser un code qui fait des calculs comme une boîte noire, c'est vraiment la certitude de faire des bêtises et éventuellement des bêtises dangereuses. Je vais vous donner une statistique qui sera confirmée par votre professeur qui vous enseignera Abacus. Abacus, c'est le logiciel majeur utilisé dans l'industrie. Donc, on vous met entre les mains les logiciels de l'industrie. Ce n'est pas à peine de chipoter. Il vous faut des logiciels professionnels. Le professeur d'Abacus vous dira 98% des calculs Abacus sont initialement faux. C'est très important, 98%. Mais Abacus, il ne vous dit pas, je pense que vous vous êtes trompé. Abacus, son boulot, c'est de vous sortir de jolies cartes en couleur de contraintes, de déformations, de déplacements. C'est très joli. Donc, si on aura à l'aspect esthétique des choses, on est content de soi. Et vous allez travailler avec des jeunes moins bien formés que vous, qui seront très contents de vous apporter une carte de contrainte. Et ça sera votre responsabilité de dire, là, j'ai regardé, c'est certainement faux, et c'est probablement faux pour cette raison. Fais donc ceci, fais donc cela, pour qu'on puisse augmenter notre niveau de conviction sur la qualité du résultat que tu nous apportes et sur la justesse de ce résultat. C'est très important parce que, bien évidemment, en premier poste, vous allez faire vous-même ces calculs-là. Mais compte tenu du fait que vous êtes brillant, vous allez très vite passer à l'étape suivante, où les calculs, ce n'est pas vous qui les faites, c'est vous qui les contrôlez. Vous avez des hommes qui travaillent, des hommes et des femmes qui travaillent pour vous, qui vous apportent des calculs, et vous avez l'énorme responsabilité de signer en bas en disant le calcul est juste ou il n'est pas juste. Je prends un exemple assez typique. Il y a des grosses structures qu'on appelle des alternateurs, des turbines, enfin des éléments, enfin, on va dire des gros blocs de métal qui tournent très vite dans les centrales, qu'elles soient nucléaires ou autres. Quand on produit de l'électricité, on a des gros axes qui tournent. Ces axes se fissurent à cause du chargement cyclique, et vous apprendrez ça avec moi, et peut-être dans le cours de fatigue, si vous le souhaitez. Et donc, très régulièrement, ces axes sont contrôlés, on voit la fissure. Elle est profonde. C'est des fissures qui font plus de 20 cm, et elles pénètrent au cœur de la structure. Mais c'est des structures extrêmement chères. Donc on ne les change que lorsqu'on est obligé. On ne va pas changer si on a une fissure et si on pense que ça peut tourner. Et donc on a des camarades qui modélisent ces objets-là, qui calculent ces objets-là, et qui écrivent à la fin une note disant « on peut la laisser en place encore un an ». Eh bien, il vaut mieux pas se tromper, parce que les fois où les ingénieurs se sont trompés dans cette prédiction-là, la structure explose, c'est des blocs monstrueux qui traversent les murs, qui traversent... En Afrique du Sud, il y en a eu un récemment, ça a traversé par-dessus l'autoroute. Donc s'il y a quelqu'un... Enfin, il n'y a pas eu de mort, c'est un coup de chance. Mais s'il y a quelqu'un sur le trajet, il est mort. D'accord ? Donc, il faut faire très attention à ça. Et avec la multiplication des éoliennes que vous voyez partout, le nombre d'axes qui tournent avec des couples énormes. Une éolienne, vous avez l'impression que ça tourne lentement, mais parce que c'est grand. Quand vous êtes au bout, ça tourne quand même relativement vite. Mais ce qui tourne vraiment très très vite dans l'éolienne, vous avez une boîte de vitesse qui fait tourner très très vite le générateur. Et donc, en fait, l'axe de l'éolienne encaisse des efforts monstrueux et donc fatigue. Donc, savoir dire qu'une éolienne avec une fissure au niveau de son axe, peut être prolongée, ben, il faut savoir le dire. Avec certitude, c'est impossible, mais de manière probabiliste et avec un certain niveau de confiance, c'est très important. Tout ça pour vous dire qu'il faut apprendre beaucoup de mécanique. Vous n'avez pas le droit d'être ignorant. On attend de vous que vous le sachiez. Vous sachiez tout, et s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ben vous l'apprenez. C'est très important. J'ai parlé des matériaux. Voilà les principales familles de matériaux, vous les connaissez, les métaux, les polymères, les céramiques techniques. Bien sûr, on ne s'intéresse pas à la terre cuite pour faire des pots de fleurs, ni des assiettes. Les céramiques qu'on utilise, c'est des céramiques presque sans porosité. Céramiques très chères. Les matériaux composites, vous en avez beaucoup entendu parler. Et donc, on rajoute un cours sur les nanomatériaux. Ces cours-là sont électifs, mais ceux qui s'intéressent aux matériaux, je vous encourage à en prendre le plus possible. D'accord ? Les métaux, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y a des révolutions qui se produisent en permanence dans le domaine des métaux, et vous les verrez si vous suivez ce cours. Il y a autre chose qui doit vous intéresser probablement, pour savoir si vous voulez venir dans ce département ou pas, c'est les modes pédagogiques que l'on utilise. Alors d'abord, vous avez compris, vous ne savez pas tout. Vous êtes très bon, mais il vous reste plein de choses à apprendre. Et les aspects théoriques sur ces aspects de mécanique en grande transformation, de comportement non linéaire, d'élastoplasticité, de rupture, eh bien, il faut qu'on vous apporte ça. Il n'y a pas le choix. Donc, il y a 35% de théorie, en moyenne, dans ce qu'absorbent vos camarades. Et regardez-les, ils ont l'air d'être encore assez relativement sereins. Enfin, je vous confie à eux tout à l'heure, vous verrez bien s'ils sont morts ou s'ils ne sont pas morts. Mais ils arrivent à absorber ça au bout d'un semestre. Et je pense qu'ils sont assez contents d'avoir fait cette acquisition d'un niveau scientifique de très grande qualité. Par contre, il y a une chose qu'on va vous apprendre. C'est que la théorie, c'est très beau. Mais c'est une idéalisation, une vraie idéalisation de la réalité qui est beaucoup plus complexe. Et quand vous avez une théorie avec son lot de simplification pour qu'elle puisse aller au bout des équations. Forcément, vous vous éloignez de la réalité. Il est donc essentiel pour que vous soyez des ingénieurs responsables qu'on vous fasse vous confronter à l'expérimental. On vous parle d'un comportement, vous allez voir le type de tricherie que l'on fait pour avoir quelque chose qui se traite. Prenez l'exemple de l'élasticité linéaire que vous utilisez avec votre professeur, Luc Dormu. Est-ce que vous croyez qu'un matériau peut être élastique linéaire ? Bien évidemment, non, pas rigoureusement. C'est impossible. D'accord ? Donc, quel est le niveau d'approximation que l'on a ? Eh bien, il faut que vous arriviez à maîtriser ceci. Vous arriviez à accepter quelque chose qui est difficile quand on a votre formation, c'est que la science ne dit pas la vérité. Les scientifiques ne prétendent plus dire la vérité. Les scientifiques disent des choses qui sont fausses, mais qui permettent des prédictions pour l'action. Et donc, bien évidemment, il vaut mieux qu'on soit le moins faux possible pour être le plus prédictif possible. Et donc, la mesure de l'écart entre la théorie et l'expérimental est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et vous allez avoir beaucoup de modules dans ce département qui sont des modules expérimentaux. Enfin, on veut faire de vous des ingénieurs efficaces. Si on vous laisse travailler avec un stylo et un crayon, tous les objets que vous êtes capable d'étudier, vous le savez, deviennent des sphères ou des cylindres. Les objets de la vraie vie, ils ne sont pas tout à fait comme ça. Donc, vous avez un impératif, c'est d'apprendre à dessiner. Apprendre à dessiner, il n'y a pas le choix. Si vous voulez le faire de manière professionnelle, il vous faut des vrais outils de CAO. Celui qu'on a retenu dans ce département, c'est Katia Vessin. C'est le must d'un point de vue de l'industrie mondiale. Et ça commence même à pénétrer le génie civil, puisque, par exemple, le président du département génie civil, Bernard Vaudeville, dans son bureau d'études de génie civil, utilise Katia. Donc, on va vous apprendre à dessiner avec Katia. Mais pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà des logiciels de CAO, il y en a quelques-uns, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas très, très éloigné des logiciels, comme vous donnez les noms de ceux qui sont SolidWorks. et probablement aussi en classe prépa d'ailleurs. Hein, quand vous faites des dessins, c'est plutôt SolidWorks. Ça m'étonnerait qu'on vous ait déjà mis Katia dans les mains. Mais bon, c'est important de savoir dessiner. Une fois que vous avez dessiné, prenons l'exemple de la semaine conception raquette. Il y a un gars de Décathlon qui vient et vous dit une bonne raquette, ça n'existe pas. Il faut préciser le public visé, si vous visez un enfant ou si vous visez Björn Borg. Ça y est, vous connaissez mon âge. Voilà. Prenez un joueur moderne, Nadal. La raquette pour Nadal, ce n'est pas celle du gamin de 16 ans qui est en train de faire des progrès pour essayer d'être classé. D'accord ? Donc il faut définir un cahier des charges. Ça, c'est un gars de Décathlon qui vient vous le raconter. Une fois que vous avez vu ça, vous dessinez la raquette. Vous lui donnez une géométrie qui vous plaît et qui doit avoir une certaine efficacité d'un point de vue mécanique. Une fois que vous avez fait ça, ben, il faut savoir comment la faire. Vous allez mettre des fibres de carbone là-dedans. Les fibres de carbone, vous les mettez comment ? Mettez combien de fibres de carbone ? C'est ce qu'on appelle le dimensionnement. Ce dimensionnement, c'est de la mécanique des structures. Donc il vous faut un très bon code de mécanique des structures. Et celui qu'on vous met entre les mains, c'est Abacus, c'est-à-dire celui que tous les industriels de la mécanique utilisent. Un code professionnel extrêmement efficace. Par contre, tous ces codes-là, méfiez-vous-en, ils calculent toujours. Vous leur posez un problème qui n'a pas de solution, ils vous donnent une solution. Il y a de quoi être un peu inquiet. C'est louche, d'accord ? Et ça, vous pourrez vous amuser à le faire, si vous voulez. Donc on vous met entre les mains un code relativement facile à utiliser, mais la difficulté et le talent de l'ingénieur, l'art de l'ingénieur, c'est d'être capable de regarder un résultat de calcul et de dire où est probablement l'erreur, vu que c'est probablement faux, 98 ans sur 100, que ce soit faux au début. Et pareil pour la mécanique des fluides. Pour la mécanique des fluides, on a beaucoup de camarades qui vont travailler sur des objets de type éolienne, etc. Hein, qui ont travaillé d'ailleurs en semaine conception sur un très beau concept, auquel je crois beaucoup, d'éolienne de toiture. Si on veut vraiment optimiser ces objets-là, il ne faut pas seulement s'intéresser aux solides qui tournent, il faut s'intéresser aussi au fluide qui est en train de passer là-dedans. C'est un problème complexe. Donc il faut avoir des outils qui permettent de faire ces calculs sur des géométries qui n'ont rien de trivial. Si vous les avez là, entre les mains, vous les projetterez, vos dessins. Donc il faut être capable de faire des calculs de mécanique des fluides. On propose au premier semestre StarCCM+, c'est un logiciel pas mal utilisé dans l'industrie, je crois. Sauf dans l'industrie, on va dire, de type énergie, EDF utilise un code qui s'appelle Saturn. Et comme il y a beaucoup de débouchés et beaucoup de relations entre l'école des ponts et EDF, on vous propose aussi un cours de mécanique numérique des fluides avec le code Saturn. Donc vous en avez deux. Je vous encourage fortement à choisir au moins un des deux, et pourquoi pas les deux, si vous aimez ça. Donc, on insiste beaucoup sur les codes et l'utilisation des codes de manière intelligente et prudente. 20% de l'activité. Si vous faites le total, vous arrivez à 75%. Il doit donc y avoir autre chose pour 25%. Cette autre chose, c'est des projets. On veut faire de vous des ingénieurs qui conçoivent. Et bien donc, pour savoir ça, on vous pose des problèmes de conception. Donc vous avez des projets, des mini-projets, des gros projets, des semaines-projets, etc. Il y a plein de projets dans ce département. Vos camarades viennent de démarrer sur les projets de leur prochain semestre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Les titres que je vais vous balayer rapidement, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, sont pour l'instant provisoires. On va revenir, pour être bien clair, sur les objectifs de la formation, parce qu'il faut qu'on vous donne des éléments qui vous permettent de mûrir votre réflexion pour savoir si vous venez chez nous ou pas. Premier objectif, former des ingénieurs efficaces dès le premier poste. C'est nécessaire. C'est ça qui vous, en quelque sorte, met sur une trajectoire. Si vous êtes efficace en premier poste, vous réussirez une belle carrière. Ce qui est très important, c'est d'être respecté. Quand on commande des hommes, on ne peut les commander que s'ils ne vous méprisent pas. Pour être respecté dans les milieux de la mécanique, il faut avoir des compétences et des connaissances. Et les camarades qui sont en poste sont effectivement respectés, voire quelquefois admirés, à cause de leur compétence en mécanique qui va très au-delà de la plupart de leurs collègues et de leurs connaissances. Donc ça, c'est quelque chose qui marche, que vous pouvez faire, qu'on teste depuis, on va dire, plus de 10 ans. Donc on continue dans cette voie-là. Ensuite, c'est des mots un peu pompeux, excusez-moi, mais bon, ça fait partie du discours, hein, puisque ça, ce type de phrase, c'est lu par autre chose que des élèves. Hein. C'est lu en particulier par ceux qui embauchent, par les DRH. Donc on veut faire de vous des gens créatifs et audacieux pour la proposition de solutions innovantes. On va essayer de vous apprendre à ne pas faire uniquement des innovations incrémentales minuscules. Quand vous avez des nouveaux problèmes, il faut être capable d'oublier ce qui a été fait pour éventuellement proposer des choses radicalement différentes. Et vous avez la chance, moi je dis ça comme ça, d'être dans une société qui, du point de vue technique, est en train d'être totalement chamboulée. Les aspects de communication, les aspects de santé, les aspects d'énergie, les aspects de transport, tout est profondément remis en question. Vous avez un peu la même chance que celle que j'ai eue moi quand je suis sorti de l'école des ponts en 1978, où il y avait plusieurs secteurs qui étaient totalement bouleversés. La société, d'un point de vue technique, s'est un peu endormie, à part l'aspect proprement communication. Et là, ça se réveille. Et ça se réveille pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles qu'il y avait dans ma génération. C'est que le monde est menacé. Le monde est menacé. Les citoyens sont menacés. Il faut absolument inventer des produits qui soient des produits de qualité et qui protègent la planète. Donc, c'est pour ça qu'il faut être créatif et audacieux et proposer des solutions innovantes. À l'aise avec les outils les plus avancés de la conception, autant dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils, ce n'est pas la peine de tenter d'être créatif. Parce que comme je vous l'ai dit, en mécanique, si vous n'avez pas d'outils pour dessiner et d'outils pour calculer, ça veut dire que vous inventez des sphères. C'est très joli, très joli la sphère, mais à part pour la pétanque, peut-être un peu le foot, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'on veut aussi, c'est que vous sachiez choisir vos stages et vos postes. Donc on essaye de vous donner la meilleure connaissance possible du tissu industriel, des problématiques de ces industries et de leurs modes d'action. On essaye, là, ça c'est prétentieux, c'est un peu faux. Rompu aux techniques de gestion de projet et de travail collectif, c'est excessif, ça c'est pour le coup, c'est pour les DRH. Pour vous, on essaye de vous apprendre le plus de choses que l'on peut sur les techniques de gestion de projet et de travail collectif. Rompu, on est rompu à ces techniques-là 5 ans après son premier poste, quoi. D'accord ? Mais bon, voilà, c'est le discours de doctrine qu'on donne à l'extérieur. Premier objectif, donc, former des ingénieurs. Deuxièmement, vous donner une culture scientifique, technique et managériale. Et enfin, et surtout dans ce département, éthique. Comme vous l'avez compris, vous allez faire des métiers dangereux pour les autres. Donc il faut en avoir conscience. Vous allez faire des métiers qui peuvent créer des destructions d'emplois considérables. Vous allez faire des métiers où des margoulins risquent d'aller exporter dans des pays où il y a des esclaves la production des objets que vous allez concevoir. Défendez-vous contre ça. Ça n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour des fabricants de chaussures qui font fabriquer leurs chaussures par des gamins de 12 ans, 15 heures par jour. Évitez ça. Refusez ça. Vous avez un niveau et vous avez une dignité qui doit vous permettre de dire non, ça, moi, je ne le fais pas. D'accord ? Et par contre, compte tenu de votre niveau, très jeune, vous aurez des postes de responsabilité, voire de haute responsabilité. Le plus étonnant, je vous l'ai dit, c'est un camarade qui, pendant son année de césure, qui n'était pas encore diplômé, qui était déjà chef de projet. C'est donc vrai. C'est exact. Les camarades qu'on va vous présenter dans le séminaire des anciens, c'est des camarades de tous âges, et vous verrez l'augmentation de leur niveau de responsabilité. Et donc, pour ça, on va essayer de développer votre leadership, votre capacité à faire partager votre point de vue par vos collaborateurs et puis par vos collègues, et on va essayer d'insister sur des valeurs positives, et une ambition, ici on écrit pour les entreprises, ambition pour les entreprises et les projets, mais très franchement, ma conviction à moi, c'est que vous aurez d'ambition pour la société aussi, et pour vos concitoyens. Et donc, on conclut avec quelque chose qui est devenu essentiel dans la formation des ingénieurs, aiguisez votre conscience de vos responsabilités, en particulier face aux problématiques de sécurité et aux problématiques de développement durable. Donc, on va regarder ces objectifs en les déclinant un peu plus pour des élèves. Objectif premier, mettre en place les connaissances qui vous permettent d'agir comme concepteur. C'est essentiellement le premier semestre. Connaissances obligatoires, là on devient plus concret et c'est vraiment du discours pour étudiants et pas pour DRH. 8 modules, 3 séminaires. Les premiers modules, assimilation de connaissances théoriques et avancées en mécanique et physique des matériaux, en mécanique des structures, en mécanique des fluides, en aérodynamique et transfert thermique. Ça, c'est un module du deuxième semestre que vos camarades vont commencer demain. En fatigue des matériaux et des structures, plutôt un cours du troisième semestre. Vous donnez la maîtrise des principaux outils qui vous permettent de devenir des ingénieurs actifs. CATIA V5 pour dessiner, Abacus pour calculer des structures, quels que soient les matériaux, Saturne ou Star CCM+, pour calculer des écoulements de fluide. Compréhension des enjeux d'une conception éco-orientée avec principalement des séminaires. Un séminaire des anciens, dans lequel on fait revenir des jeunes de tous les âges, peut-être que vos camarades vous en parleront, ça a pas mal de succès. Ils viennent vous parler de leur réussite et aussi de leurs échecs, ce qui est très intéressant. Et vous verrez qu'ils ont une assez belle capacité à rebondir. Un séminaire métier qui va pas tarder à commencer, commencera la semaine prochaine, où on fait venir des ingénieurs de l'industrie qui viennent parler de leur boîte et de leur métier de mécanicien. Et enfin, le séminaire conception, qui est une semaine qui vient de se finir, on essaye de vérifier que vous avez commencé à acquérir les rudiments d'un ingénieur concepteur. Tout ça pour que vous puissiez découvrir l'activité de projet avec une mise en œuvre des connaissances acquises, c'est-à-dire être capable de mettre en œuvre de manière efficace, parce que vous connaissez les concepts qui sont cachés derrière, ces trois outils que beaucoup de gens utilisent sans vraiment les comprendre. Les objectifs complémentaires, bien sûr, c'est de développer votre culture en mécanique et en matériaux. Est-ce que je suis très en retard? Oui, il faut que j'arrive. Je passe très vite. Comprendre l'activité de conception et de fabrication et développer la conscience des assemblées de la société. Ce que je vous propose, c'est que j'arrête là et qu'on passe la parole à vos camarades s'ils ont envie de vous dire quelque chose.